Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Welcome to the Metaverse, the overuse universe. Welcome to the Metaverse, your atmosphere.
Bienvenue dans ce monde nouveau et un peu étrange, un monde en réalité virtuelle, le Metaverse.
Welcome to the Metaverse, your atmosphere.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et la musique de Plock, la chanson du Métaverse. Et alors que le salon Vivatech a fermé ses portes il y a quelques jours, on va se demander pourquoi le Métaverse fait rêver les entreprises. C'est un endroit où se rencontrer, un endroit où faire du shopping, un endroit où travailler mais ressentir des émotions, un endroit où explorer. Et où vous pouvez être différent, être vous-même et être libre. Pensez librement et vous changez les idées. Bref, aimez votre vie. Bienvenue dans Second Life. Et oui, pour les boomers comme moi, avant le métavers, il y a eu Second Life. Étonnant d'ailleurs cette vidéo officielle récente de Second Life, le monde virtuel en 3D. Mais le métavers, ce serait bien plus que ça. C'est l'avenir d'Internet. Si l'on en croit ses turiféraires, le concept n'est pas récent. Il a même été inventé en 1992. Mais depuis 2-3 ans, il fait fantasmer tout ce que la Silicon Valley compte de milliardaires, ceux de Facebook, de Microsoft, de Nvidia et de Google, entre autres. Il faut dire que les chiffres publiés par des cabinets de consultants ont de quoi rendre fou. Selon un rapport de McKinsey présenté lors du salon Vivatech, le métavers représente une opportunité à 5000 milliards de dollars, 58 fois le chiffre d'affaires de Meta, le propriétaire de Facebook. Et selon Gartner, d'ici 2026, 25% des personnes passeront au moins une heure par jour dans le métavers pour le travail, les achats, l'éducation, les médias sociaux ou le divertissement.
Metaverse, Metaverse.
Le métavers a de quoi rendre fou la planète tech. J'ai profité du salon Vivatech pour envoyer une de mes collègues, Pauline Jacquot, en immersion, pas seulement auprès des geeks, mais aussi des visiteurs et des exposants. Téléportation donc au salon Vivatech.
C'est une technique qui s'appelle le déplacement instantané. Je vais vous montrer. Je vais disparaître. Au revoir. À tout de suite. Je reviens.
Oh, il a disparu.
Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Pierrick.
J'ai passé une demi-heure à Vivatech la semaine dernière. J'ai entendu beaucoup parler de crypto-monnaies, de NFT, notamment auprès d'un public plus jeune que moi. Et j'ai une interrogation dans les travées du salon. Le mot métavers était-il aussi sur toutes les lèvres ?
Alors oui, hein, sur toutes les lèvres et sur presque tous les stands, que vous leviez les yeux, que vous tourniez la tête à droite, à gauche, que vous regardiez n'importe où, vous voyez ces affiches, ces slogans qui vantent ce nouveau monde, le virtuel, les avatars, les casques de réalité augmentée. Les entreprises s'engouffrent dedans, vraiment, le métavers, trois syllabes pour une promesse. Alors c'est celle du futur, de l'Internet de demain, mais on ne sait pas exactement ce qu'il sera, hein. Personne ne le sait encore, le concept est encore très flou. Alors justement, on va poser la question, on va déambuler ensemble dans ces allées du hall Vivatech, porte de Versailles à Paris. Premier arrêt au stand KPMG, sur le grand écran il y a une animation sur le métavers. Et aux manettes, c'est Jean-Guy Pross, un membre de l'équipe Connectic Tech.
C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, avec des interrogations, avec soit des discours très techniques pour des gens initiés, avertis, qui ont saisi le sujet depuis un ou deux ans et qui veulent aller un cran plus loin, parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de tests, un certain nombre de POC, de proof of concept qui ont été réalisés dans les entreprises. Soit au contraire, c'est des questions très basiques, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça va m'apporter ? Avec une question qui revient assez souvent, mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer un besoin inexistant ?
Mais un besoin qui va s'imposer dans les années à venir, en 2030, selon lui, donc dans 8 ans, dans pas très longtemps. On pourrait passer la moitié de notre temps dans le métavers. pourquoi exactement ? Exemple d'utilisation avec Thomas Meurin, consultant chez Blockchain Partners.
En fonction de l'activité, donc là par exemple pour un club de sport, on va essayer de favoriser l'engagement des fans. Créer un jeton, on appelle ça un token pour votre club, qui pourrait permettre à des fans qui ont ce jeton de pouvoir voter et participer un petit peu à de la gouvernance sur des questions de gouvernance justement du club.
Des applications concrètes dans la vie quotidienne, c'est aussi le pari de la SNCF et de Julien Nicolas, le directeur numérique du groupe. Le train, les voyages peuvent aussi avoir besoin d'un monde virtuel.
Derrière la technologie du métaverse, il y a plein de choses qui ont des cas d'usage, y compris pour nous. Par exemple, dans la réalité virtuelle, dans la formation de nos agents, dans la capacité à travailler à distance avec des experts qui interviennent, où on peut remodéliser par exemple nos infrastructures, les gares, les infrastructures de rail, un matériel comme le TGV, et on peut tous travailler ensemble. Donc oui, le métaverse a des applications aussi pour nous.
La SNCF en mode virtuel, ça peut surprendre. En revanche, il y a bien un endroit où l'on s'attend à parler métavers, c'est chez Meta.
Oui, et les visiteurs l'ont bien compris, hein, parce qu'ici, on ne fait pas que parler du métavers, on y plonge, on le teste 5 heures d'attente pour pouvoir mettre le tant attendu casque de réalité virtuelle devant les yeux. Le métavers, c'est le sujet d'Antoine Borde. Il dirige le laboratoire Meta de recherche en intelligence artificielle.
Tout le monde a une petite idée, mais tout le monde aussi se demande, mais en fait ça va être quand ? Quand est-ce que ça arrive ? Et quelle forme ça va avoir ? Et alors après, il y a des gens qui sont un peu sceptiques, il y a des gens qui sont là, comment j'en fais partie ?
Par exemple, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, vous leur répondez quoi sur le métaverse ?
Moi, je leur dis que c'est l'évolution d'Internet qui va être en 3D et qui va avoir un ressenti beaucoup plus physique et de présence. Donc je leur dis aussi, si vous avez l'opportunité, mettez un casque, essayez une expérience et vous comprendrez tout de suite. On a toujours été très clair, c'est pas parce qu'on s'appelle Meta que le métaverse, il va nous appartenir. C'est vraiment plutôt pour dire qu'on pense que c'est le futur d'Internet et que nous, on veut être positionnés. Mais les casques, on essaie de les faire pas très chers pour que les gens puissent y avoir accès. On a pas mal d'outils pour créer des environnements, des espaces dans le métavers pour d'autres gens. Et on travaille avec tout un écosystème de gens qui disent comment vous pouvez nous aider à participer au métavers. Donc là, c'est vraiment très très impressionnant de voir à Vivatech le nombre de startups, de démonstrations, etc. qui sont liées au métavers.
Alors les visiteurs qui se pressent sur le stand Meta pour enfiler les casques, découvrir le phénomène, vous avez discuté aussi avec eux, qu'est-ce qu'ils en attendent de ce métavers, de cet univers parallèle ?
Alors quoi particulièrement, ils ne savent pas vraiment, hein, mais ils attendent, ils s'interrogent en tout cas. Comme Sébastien et Mathias, ils se posent plusieurs questions, dont celle de l'utilité réelle de ce métavers.
C'est rigolo, c'est sympa, on met un casque, on est dans un autre monde et tout. Après derrière... Enfin, je sais pas, moi, quand je prends de recul et je me dis avec toutes les problématiques qu'on a, est-ce que c'est la priorité absolue de se lancer là-dedans ? Je pense pas, mais priorité écologique, sociale, et là, de se dire qu'en fait, on investit des millions dans un monde virtuel alors qu'on a un monde réel là, à sauver. Donc, en vrai, c'est juste ça que je me pose. Mais si je me pose pas ces questions, je trouve ça sympa d'aller voir ce qu'il y a pour comprendre.
J'ai l'impression que ça regroupe plein de choses qui existaient déjà, en fait, les jeux vidéo, etc. Donc, finalement, le métavers, j'ai l'impression que ça existe depuis 20 ans, en fait, finalement. Donc, on essaye de réunir plein de choses qu'on met au sein d'un concept qui s'appelle le métaverse, donc c'est pas hyper clair pour l'instant, je vous avoue.
Un léger scepticisme, on l'entend, qui tranche avec l'enthousiasme cette fois-ci de cette étudiante.
Pour moi, c'est plus vous savez, des trucs d'enfance qu'on voyait dans les dessins animés qui est en train de se concrétiser et d'être de plus en plus public.
D'autres, comme William, viennent plutôt pour essayer de comprendre les applications que pourrait avoir ce métavers dans leur métier.
Moi, je dirais que j'ai même une déception vis-à-vis du métaverse. Parce que ça fait plus d'un an qu'on en parle, et chacun a sa définition. Chacun vient avec sa propre définition. Certains ont une vision qui est dans l'ultra-immersion, avec la réalité virtuelle en point d'orgue. Alors qu'effectivement, il y a des applications, peut-être avec la réalité augmentée, qui pourraient être beaucoup plus intéressantes. Et je pense que vis-à-vis du tourisme, c'est là où ça peut être vraiment intéressant. C'est quand ça vient en superposition de la réalité. Or, je ne suis pas sûr que tout le monde a cette même définition de Metaverse. C'est le grand bazar un petit peu, c'est la caverne d'Ali Baba. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais peut-être qu'il faut juste expérimenter et voir ce que ça donne dans des utilisations concrètes.
Et entre enfance et grand bazar, il y a une nuance. On verra à l'avenir ce que ça donnera, effectivement. Et Pauline, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que vous, Vous avez essayé, est-ce que vous êtes allé vous balader dans le métavers ?
Alors oui, j'ai eu cette chance, j'ai pu un petit peu contourner la file d'attente des 5 heures sur le stand Meta. J'avais le choix entre tester le concept de réunion professionnelle virtuelle.
Ça fait pas rêver ?
Pourquoi pas ? Mais en tout cas, j'ai préféré tester un jeu vidéo. Alors un jeu vidéo où on doit couper des cubes avec des épées, ça paraît assez basique comme ça, mais honnêtement, c'est assez impressionnant. J'ai mis un casque sur la tête, j'ai agité les bras pour tenter d'attraper ces cubes rouges et bleus. C'est une expérience très physique, totalement immersive, et c'est évidemment aussi l'un des piliers mis en avant par les professionnels du métavers, l'implication de votre corps, et c'est l'une des clés de ce succès en ce moment. Selon Antoine Bord, le directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle chez Meta, qu'on a entendu tout à l'heure, et lui il mise sur une chose, il mise sur les cours de fitness version métavers en ce moment. Apparemment c'est et ce sera un grand succès. C'est un petit peu comment ressusciter le gym tonic qu'on connaît des années 80 version Meta.
Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste, ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, métalès.
Métaverse, chanson du rappeur Lefa, un casque pour se voiler la face. Le métaverse, monde virtuel où l'on retrouvera ce que l'on y apportera, comme dans Second Life, où le pire côtoyait parfois le meilleur. Mais si le métaverse n'en est qu'à ses débuts, il fait déjà fantasmer les entreprises. Isabelle Lesniak s'est penchée sur ces entreprises françaises qui se précipitent dans le métaverse, à commencer par le plus gros employeur de France, le groupe Carrefour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de faire ces premiers pas dans le métaverse avec vous et ravi de vous retrouver pour ce moment assez exceptionnel. Exceptionnel, il l'est pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est très nouveau. C'est le premier événement de recrutement de Carrefour dans le métaverse. Et vous l'avez compris, avec ma démarche très sûre, le premier pour moi aussi.
Isabelle, on entend Alexandre Bompard, patron du distributeur, qui a fait passer lui-même des entretiens d'embauche dans le métavers. Comment ça s'est passé ?
Il faut dire que c'était la première société française à tenter le coup. Donc, évidemment, ils ont un peu essuyé les plâtres. Alors, c'était une procédure très intéressante puisqu'elle avait été simplifiée à l'extrême, même si métavers, on ne sait pas très bien où on met les pieds. Donc, eux voulaient que ce soit une procédure accessible à tous. Donc, on n'avait pas besoin de casque de réalité virtuelle. On n'avait pas besoin de créer le fameux wallet qui permet de stocker ses cryptos, ce qui est normalement une entreprise de métavers doit passer par ces étapes. Là, c'était une expérience en 2D avec un look assez simplifié. On leur a beaucoup reproché de faire du Second Life après la bataille. Donc, finalement, l'expérience a été très critiquée sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens ont trouvé ça soit ringard, soit inutile par rapport aux procédures qu'on peut avoir dans la vraie vie. Alors, eux disent que c'était ludique, c'était moins formel et ça a permis de toucher des gens différents de ceux qui seraient venus au siège à Massy. En fait, cette session de recrutement était ouverte à 30 candidats venus de deux grandes écoles françaises et l'idée, c'était de pourvoir 15 places de data scientist et data analyst. Bompard lui-même a fait passer 10 minutes d'entretien donc à une élève de Polytechnique qui a été embauchée. Donc, au niveau du recrutement, ça leur a permis de toucher des candidats. Ensuite, au niveau de la communication, c'était un peu le fiasco parce que on n'a pas bien compris ce que ça apportait par rapport à la vraie vie.
Après, ça a quand même permis à Carrefour de faire parler de lui, en tout cas sur le métavers dont on parle beaucoup. Ça a permis d'embaucher ces fameuses perles rares. On n'était pas là pour embaucher des caissières ou des manutentionnaires, mais des data scientists qui pouvaient être effectivement intéressés là aussi par cette pratique. Alors, c'est vrai que c'était un peu moche, en tout cas de ce que j'en ai vu. Mais on voit que le grand public, il n'est pas encore très présent aujourd'hui sur le métavers. En revanche, Isabelle, Carrefour est assez symptomatique du fait que les entreprises s'y précipitent.
Oui, alors c'est surtout le cas depuis les fameuses annonces de Mark Zuckerberg en octobre, qui a donc transformé Facebook en Meta et qui a mis le paquet sur le métavers. Et donc, ça a donné plein d'idées aux entreprises. En fait, le concept n'est pas du tout nouveau puisque la première fois qu'on on voit le mot métaverse, c'est dans un livre vraiment très passionnant, absolument visionnaire, d'un certain Neil Stephenson, un prof américain, en 1992, dans le Samouraï virtuel. Alors lui, il ne parle pas trop des marques, il parle plutôt des citoyens qui quittent la vraie vie pour mener une vie parallèle, théoriquement moins violente dans le métavers. Bon, on se souvient de Second Life qui avait déjà en fait donné lieu à des expériences d'entreprise. Par exemple, Havas avait organisé la première assemblée générale d'une entreprise du CAC 40 pour Air France dans le Second Life. Mais c'est vrai que depuis cet automne, toutes les entreprises s'y mettent. Alors au début, c'était les entreprises de luxe. Et puis maintenant, il y a de l'assurance, il y a de la banque, il y a des distributeurs, il y a la publicité. J'ai beaucoup parlé avec les gens de Faber Novel pour mon enquête et ils ont vu vraiment une explosion des demandes d'entreprises qui demandent à être accompagnées sur le métavers. Bon, beaucoup, c'est au stade de l'exploration et encore très peu au stade du prototypage, c'est-à-dire qu'on puisse voir les contenus venus des marques sur le métavers.
Le rapport de McKinsey publié au moment de VivaTech est intéressant. Selon lui, depuis le début de l'année 2022, plus de 120 milliards de dollars ont déjà été investis dans ce champ par des fonds ou des entreprises comme Meta, Nvidia ou Microsoft, qu'est-ce qui les attire ?
Alors c'est vrai qu'il y a l'idée, si on n'y va pas, on peut passer à côté d'une véritable révolution. Donc c'est la révolution du fameux Web 3. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, le Web 1, c'était cette connaissance partagée, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur Internet toutes les informations qu'on recherche dans la vie courante. Le Web 2, c'était la possibilité de créer des contenus. Alors il s'est trouvé que finalement, les grandes plateformes ont quand même pris des commissions assez importantes et que les créateurs n'étaient pas vraiment rémunérés directement pour leur contenu. Et c'est ça, donc, le Web 3, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de monétiser les contenus pour chaque créateur. Donc ça, c'est la peur de rater cette révolution qui pousse beaucoup d'entreprises. En ce qui concerne les GAFAM, par exemple, les géants donc, de la tech américaine, c'est vrai qu'ils s'y mettent à la fois pour créer leur espace virtuel, mais aussi parce que ça permet de vendre des produits pour accéder à cet espace. Et donc, par exemple, pour Facebook, c'est sûr que la transformation en Meta permet à la fois de faire parler d'eux de manière très positive, puisque 13 milliards vont être investis, ont déjà même été investis et dépensés dans le métavers. Ils ont dit donc qu'ils allaient embaucher 10 000 personnes en Europe pour créer leur métavers, ce qui évidemment détourne un peu l'attention des problèmes de Facebook, qui n'est pas un réseau qui a vraiment le vent en poupe. Mais aussi Facebook, évidemment, enfin Meta, peut commercialiser ses casques, l'Oculus Quest 2 et puis les nouveaux venus qui seront encore plus révolutionnaires. Et puis, ils ont aussi, par exemple, fait parler d'eux, alors pas forcément en très bien ces derniers jours, puisqu'ils ont lancé un magasin en ligne qui permet en fait de commercialiser des vêtements luxe, les fameux skins pour des avatars. Donc, il y a du Gucci, du Balenciaga sur un avatar qui ressemble finalement assez à une photo de nous dans la vraie vie. Donc tout le monde s'y met. Microsoft aussi crée à la fois son espace en 3D, alors qu'il sera sans doute plus professionnel que Meta, qui sera plus un réseau social qui explorera le champ personnel. Pour Google aussi, en toute discrétion, apparemment, ils préparent des lunettes de réalité augmentée, ce qui permettrait de se remettre de l'échec des Google Glass. Apple est en embuscade pour aussi commercialiser un casque qu'on dit évidemment meilleur que la concurrence, plus cher, plus fiable, moins lourd. Donc, ça pourrait aussi changer la donne. Donc, finalement, c'est un gros marché pour les devices et pour les espaces eux-mêmes.
Les motivations sont diverses. Hein. Selon une étude réalisée auprès de 200 entreprises européennes déjà présentes dans le métavers, 26% y voient un moyen de réaliser un profit, 18% de récolter de la data sur les utilisateurs, 17% une rampe pour lancer de nouveaux produits et 13% un outil pour améliorer le travail à distance. Pour McKinsey, c'est une source massive de croissance pour les décennies à venir. Comment est-ce que les entreprises que vous avez contactées conçoivent-elles le métavers aujourd'hui ?
elles ont en fait quatre grands types d'attentes par rapport au métaverse, donc qui doit en fait remplir quatre fonctions. Premièrement, ça peut augmenter l'attractivité de la marque. Alors ça, c'est à la fois la marque vis-à-vis de ses clients. Donc par exemple, Samsung présente sa nouvelle gamme de smartphones dans le métaverse plutôt que dans la vraie vie. Ça montre que c'est une marque différente, innovante. Ça peut être aussi donc l'attractivité de la marque en tant qu'employeur. C'est ce qu'a essayé évidemment de faire Carrefour. Ensuite, il y a aussi la possibilité de toucher une nouvelle audience, évidemment, plus jeune, qui est en construction. Alors, pour l'instant, on pense qu'il y a à peu près 300 millions de personnes qui utilisent le métavers par rapport aux 3,5-4 milliards d'internautes sur la planète. Donc, on peut toucher ces early adopters, enfin, cette population qui est très digitale. La troisième raison, c'est qu'on peut monétiser ses produits avec des sacrées marges. Donc ça, on l'a bien vu, c'est le luxe qui essaye de vendre la réplique de produits physiques dans le métavers et par exemple des Nike virtuels en 3D qui se revendent 8 500 $ la paire sur le marché secondaire. Donc évidemment, ça coûte beaucoup moins cher à produire qu'une paire de chaussures physiques. Et enfin, et c'est sans doute la fonction et l'usage le plus intéressant, ce serait d'améliorer les procédures de gestion de la société. Donc ça, c'est, on en est vraiment au balbutiement, mais ça pourrait être à la fois des possibilités nouvelles en interne, par exemple la possibilité de faire de la co-création, de coopérer à distance. Et puis en externe, c'est la possibilité en fait de lancer un nouveau type de programme, par exemple de fidélisation des clients. C'est assez intéressant. Casino s'est lancé là-dedans avec le club Leader Price en proposant dans le métavers des bons achats dans la vraie vie, donc pour les clients les plus fidèles. Donc ça crée un nouveau type de relation avec des clients qui sont très digitaux et assez qualifiés.
Alors, il y a quand même déjà une star française dans le métavers. C'est ce que j'ai aussi compris en lisant votre article dans les Echos Weekend. C'est The Sandbox.
Oui. Alors Sandbox a été créé donc en 2014 par deux Français qui s'appellent Arthur Madrid et surtout Sébastien Borger. Si je dis surtout, c'est parce que c'est vraiment il a pris le visage du métavers. En fait, il y a deux grandes entreprises, enfin deux grands métavers actuellement qui peuvent attirer les marques. C'est Sandbox et c'est Decentraland. Decentraland, c'était créé par des Argentins à peu près à la même époque. Mais les fondateurs sont beaucoup plus discrets, alors que Sébastien Borger parle au nom du métavers et parle beaucoup aux marques françaises avec lesquelles il co-construit finalement des projets. Alors, c'est plus français. Hein. Depuis, ça a été racheté par Animoca Brands, qui est hongkongais. Et au départ, ça n'avait pas été créé pour les marques. C'était évidemment, comme pas mal de métavers, c'était destiné aux jeux mobiles. C'était dans l'univers du gaming. Mais ils ont réussi à pivoter et à convaincre pas mal de marques de venir construire l'expérience chez eux. Il y a plus de 200 marques alors qui y sont déjà déployées, donc Gucci, Warner, Binance, Adidas, Atari et en France, AXA, Carrefour, Havas, Casino. Donc ça, c'est évidemment un socle très important pour asseoir et construire leur légitimité. Il y a aussi des investisseurs très renommés qui y ont fait confiance, donc c'est SoftBank ou bien Andreessen Horowitz. Donc c'est quand même des grands noms de la tech qui ont décidé d'investir dans le Sandbox. Et puis pour un aspect plus grand public, les stars y vont. Snoop Dogg y a en fait tourné une vidéo et puis il offre pas mal d'expériences, de concerts sur Sandbox. Paris Hilton aussi. Donc finalement, il y a une caution à la fois des marques et des stars pour une audience qui finalement en ce moment est encore assez faible puisque on en est à 2,5 millions d'inscrits, mais seulement, si on peut dire, 350 000 utilisateurs actifs mensuels. Donc, on est loin des audiences de certains jeux comme Roblox, par exemple.
Alors justement, j'ai un petit peu de mal encore à imaginer ce futur du métavers. Quelles seront les applications qui seront vraiment clés demain pour les entreprises et pour le grand public, au-delà du jeu vidéo qui est un peu, on va dire, l'utilisation naturelle?
Alors, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est des événements festifs, des concerts. Par exemple, Travis Scott, le rappeur, avait ce concert qui s'appelait Astronomical et qui porte vraiment bien son nom sur Fortnite, puisqu'il a permis au même moment ou quasiment de connecter 12,3 millions de fans. Donc c'est quand même quelques salles de concert réunies au même moment. Il y a eu aussi, par exemple, une semaine de la mode décentralisée sur Decentraland. Donc il y a eu cet aspect très événementiel. On a vu donc les vêtements digitaux faits par par des marques de luxe comme Gucci, mais aussi par exemple Gap s'y est mis en vendant des pulls à capuche sous forme de NFT. Donc ça, c'est ce qu'on voit pour le moment. C'est pas des expériences très intéressantes sur le fond. On sait pas très bien ce que ça va donner. L'expérience de Carrefour dans le recrutement était mitigée, mais c'est vrai que par exemple dans ces sujets RH, ça peut changer la donne. Chez Havas, on m'expliquait qu'ils réfléchissent à faire des recrutements anonymisés où les candidats se présentent sous forme d'avatar. Alors, un homme peut se présenter sous un avatar féminin, une femme sous un avatar masculin. On peut même prendre la forme d'une créature fantasmagorique qui reflète la personnalité. Et ça permet effectivement de toucher des gens qui sont vraiment des talents sans avoir de biais cognitif. Donc ça, ce sera sans doute un espace RH si l'entreprise arrive à créer du contenu là-dedans qui peut être très intéressant.
Moi, je pense que j'irai en licorne, et vous?
Non, moi, je pense que je prendrai la joueuse de tennis qui réussit tous les grands chelems.
Merci Isabelle Lesnier, journaliste aux Échos Week-end, et merci Pauline Jacquot, journaliste aux Échos, pour avoir porté son micro dans les travées de Vivatech. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Vous retrouverez notamment tous les épisodes de la story consacrés au Salon Vivatech.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.